Hein. Salut à tous, vous êtes dans Paris Central, ça va être le live mercato avec Basto. Darius est en vacances, il est remplacé par Sam, qu'on connaît depuis très très longtemps, qui va devoir avoir la lourde tâche de remplacer Darius aujourd'hui. Alors, dans les sujets, on va parler de Zaïre Emery, est-ce que c'est un nouveau titulaire? On va parler de ce qu'on a vu dans les derniers matchs au niveau des ailes, est-ce qu'on a besoin de percussions? On va parler d'Embélé, de Renato qui part à la Roma, Icardi qui part, qu'est-ce qu'on fait de Garbi, etc. Et d'autres questions plus ou moins intéressantes. Donc, on va commencer tout de suite avec Basto. Basto, j'ai vu qu'on cherche un milieu qui pourrait faire la différence. On a parlé de Gabri Vega, on a parlé de Barella dans des pistes un peu invraisemblables. Qu'est-ce que tu penses de Zaïre Emery en titulaire dès cette saison?
J'ai envie de dire, par défaut, il va s'imposer titulaire. Il suffit. Moi, je n'ai pas vu les derniers matchs de prépa, mais a priori, c'est celui qui est le plus haut niveau parmi les milieux de terrain. Par défaut, c'est un peu sévère parce qu'évidemment, Zaïre Emery est déjà très fort, mais à son âge, il ne devrait pas être le numéro 1 du milieu parisien. Donc, s'il l'est, c'est qu'il y a déjà un problème. C'est un peu comme quand on disait sur Danilo, qui est titulaire l'année dernière en défense centrale. C'est très bien, il fait ses matchs, mais il y a un problème. Parce que normalement, dans le meilleur des mondes, il est remplaçant. Zaïre Emery, c'est un peu la même chose. Donc, si Zaïre Emery est titulaire, c'est normal vu la qualité actuelle du milieu de terrain. Maintenant, il manque, comme je le dis depuis des mois, voire des années, il manque facilement deux milieux de terrain. C'est pas seulement un qui manque, c'est deux. Un 6, un 8.
Ok. Juste avant que j'oublie, parce que j'ai oublié la semaine dernière, d'ailleurs, je suis désolé, ceux qui ont participé au tirage au sort, on va le faire tout de suite, comme ça c'est réglé. Alors ça, c'était pour celui qui est le pire joueur que vous avez connu au Paris Saint-Germain. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, on va voir qui a gagné. Erazor, c'est toi qui va gagner le bon d'achat pour faire ton flocage sur le store Nike. D'ailleurs, on en remet un autre en compte si vous faites les 700 likes d'ici dimanche soir. Et en commentaire, il faudra me mettre le joueur qui, selon vous, manque le plus au Paris Saint-Germain actuellement. Donc, si vous faisiez le DS, quel joueur est absolument important à avoir au Paris Saint-Germain? Je vous laisse mettre ça en commentaire, pas dans le chat, bien en commentaire, et je vais faire un tirage au sort la semaine prochaine. Sam, je te repose la même question que j'ai posée à Basto, on t'écoute.
Par rapport à Zaïre Emery, c'est ça?
Ouais.
Alors, pour moi, en fait, ce serait triste pour lui d'être titulaire parce qu'il a que 17 ans. Donc, ce ne serait pas lui rendre service. Quand tu vois la maturité des grands milieux, en fait, et c'est assez tardivement. Si on lui met un petit peu la cape du titulaire, comment te dire, sur les épaules, je pense que c'est pas lui rendre service. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre beaucoup. Si tu regardes bien les matchs de prépa, même les matchs de l'année dernière, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Il a énormément de qualités. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa qualité de percussion. Il a du physique. Il est hyper complet. Le souci, c'est que on le voit en fait, même l'année dernière, c'est que parfois en fait il peut se chercher, ce qui est normal. Alors il brille dans notre équipe parce que les milieux sont assez, indigents au niveau de tout ce qui est technique et tout ce qui est palette agressive. Mais par contre, il a quand même besoin, c'est là où je rejoins Basto, il a besoin d'un, entre guillemets, d'un Mota ou d'un Casimiro, quelqu'un qui lui montre un petit peu plus la palette d'un vrai milieu. Parce que si on le met à l'instant, entre guillemets, c'est pas lui rendre service. Il n'est pas encore complet. Et lorsqu'il ne va pas être au rendez-vous dans les grands matchs, ça va le brider. Donc il faut vraiment y aller avec ce petit parce que pour moi, effectivement, il a l'étoffe d'être un grand titulaire au PSG. Surtout qu'on a besoin de ce genre de titi pour nous représenter. Mais c'est pas lui rendre service de le propulser en tant que titulaire de suite.
Ok. Bon, je vous vois venir dans les commentaires. Samy est avec nous par téléphone, donc commencez pas avec vos commentaires. On n'entend rien. Justement.
Vous m'entendez pas bien?
Si, on t'entend, mais ça fait un peu qualité téléphone, mais tranquille.
Désolé.
Justement, je voulais voir avec vous, les gars. On va recruter un nouvel animateur Paris Central pour la rentrée. Donc, en la description, il y a l'adresse mail ou il y a le Dropbox. Envoyez-nous une vidéo de ce que vous pensez de ce qui manque au Paris Saint-Germain et vos solutions à vous. Et le week-end prochain, on fera une vidéo avec Barry, on va juger vos vidéos et on va décider qui peut nous rejoindre, etc. etc. Donc, si vous voulez participer, il y a le Dropbox et l'adresse mail. On va enchaîner avec la question fil rouge de ce live, qui est-ce que c'est un effectif pour gagner l'Europa League? Parce qu'actuellement, est-ce que cet effectif pour toi, Basto, il est capable de gagner l'Europa League?
Je suis même pas sûr. J'en parlais hier avec un ami. Tu regardes l'effectif, c'est vrai, du match de préparation, alors qu'il manque que Nuno et Mbappé en soi. Si tu regardes le banc et le 11, ça fait quand même peur, hein, à tous les niveaux. Que ce soit en défense, on s'est renforcé, mais avec des joueurs qui ne sont pas fiables, blessés. Au milieu, il y a des manques. En attaque, il y a des manques partout. En l'état actuel, si le mercato devait se finir aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on gagne le titre de la Ligue 1. Je ne suis pas sûr qu'on passe les poules de la Ligue des Champions. Donc, gagner l'Europa League, elle ne se gagne pas comme ça. Hein. Tu as vu l'année dernière, Arsenal être éliminé, la Juve être éliminée. Il y a des gros qui sont éliminés en Europa League. Ce n'est pas une compétition si faible que ça. Et à l'heure actuelle, Paris ne peut pas être on ne peut pas être en mesure de dire que Paris éliminerait un Arsenal, par exemple. Même si Arsenal sera en Ligue des Champions cette année.
Et toi, Sam, tu penses que qu'on peut faire quelque chose en Europa ou c'est critique?
Écoute, comme dirait un grand philosophe, sur un malentendu, ça peut passer. Donc, non, mais en fait, c'est vrai que si tu regardes bien, en fait, le souci de notre équipe, c'est que, un, on n'a pas les meilleurs éléments de loin. Donc, actuellement, peut-être que le mercato, il n'est pas fini, mais si tu parles en ce moment même, ouais, c'est vrai que c'est, enfin, je ne vois pas jouer même l'Europa League, c'est difficile. Et c'est difficile pour la bonne et simple raison que on n'a pas d'esprit de groupe, c'est même pas l'effectif en soi. C'est-à-dire que c'est qu'on n'a pas une équipe pour rôder. C'est ce qui nous manque. La plupart des équipes comme Séville ou d'autres en fait qui performent en Coupe d'Europe en général, c'est des équipes qui ont, comment te dire, un schéma assez rodé sur les compétitions. Et c'est quelque chose qui nous manque, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc non, je ne vois pas faire pour l'instant grand-chose, à moins qu'Enrique me surprenne. Mais voilà, j'ai un peu de doute, quoi.
D'accord. Likez la vidéo, les gars, et on va enchaîner ensuite avec quel besoin sur le mercato pour Luis Enrique. Parce qu'on a vu des manques criants dans cette équipe, même si on est encore sur des matchs de prépa, mais il manque clairement de la percussion, par exemple, sur les ailes. Profil qu'on n'a toujours pas, chose qui pourrait changer peut-être avec Ousmane Dembélé. On en a parlé hier, bon, on va pas rentrer dans le sujet Dembélé, mais Basto, pour toi. Qu'est-ce que tu ferais pour améliorer cette équipe?
Comme je l'ai dit, il manque clairement des ailiers de percussion qui ne sont pas des ailiers recentrés, meneurs de jeu, ça on en a beaucoup, mais des ailiers qui vont bouffer la ligne et être dans le dribble. Bon, il y a Lee, mais c'est plus un remplaçant, donc il manque vraiment le titulaire. On parlait de Barcola aussi, pourquoi pas, même si c'est un peu jeune et titulaire là, ce serait un peu aussi compliqué. Bon, il manque le 9, ça, personne, je pense que tout le monde est d'accord, même si Ekitike a mis deux buts en prépa, gloire à lui. Et il manque de la tonicité au milieu. De la tonicité au milieu, il manque un vrai 8-10 qui bouge, quoi. Parce qu'on n'a que des milieux mobiles, on a des milieux assez monotaches. Alors après, il faut un milieu qui bouge tout en ayant de la technique. Hein, parce que si c'est pour avoir un Idrissa Gueye, ce sera non merci pour moi. Mais voilà, il manque vraiment un milieu qui perfore. Donc Gabi Vegas, ça correspondait. C'est quelqu'un qui monte avec le ballon, qui joue derrière la balle. Hein, Marco qui ne regarde que le ballon face du jeu, par exemple. On a un mec comme Vitinha qui peut le faire, mais Vitinha, dès qu'il y avait Verratti sur le terrain et Neymar, et quand il y avait Messi, il a tendance à devenir un peu le petit garçon qui lui aussi ne prend pas de risque et joue derrière le ballon. Donc, ouais, il manque un vrai cador pour apporter de la tonicité au milieu. Ce serait même peut-être pour moi plus prioritaire encore que l'ailier de débordement. C'est dire à quel point on a des manques partout.
Et toi, Samy?
Oui, je rejoins tout à fait. Enfin, après, il nous faut clairement quelqu'un qui construise avec le ballon. C'est vrai que je suis un peu déçu de Vitinha parce que j'en attendais quand même pas mal. Mais je trouve que le Vitinha qu'on a eu en début de prépa et de saison était beaucoup plus intéressant que ce qu'on a eu par la suite. Après, il faut pas oublier qu'il a dit une chose intéressante au niveau de son placement en novembre, c'est que Galtier lui demandait de pas trop se projeter et de passer la balle en attaque. C'est une consigne qui a souvent été dite, et je me demande s'il a pas été bridé. Mais bon, de toute façon, ça révèle quand même son, comment te dire, son cheminement, en fait, sa façon de d'ailleurs. À ce moment-là, il faudrait effectivement avoir un milieu du style De Jong pour moi. Si j'avais été le PSG, franchement, je pense qu'il y a des choses qui sont assez faisables. C'est-à-dire Bernardo, en fait, tu fais ce que tu peux pour le ramener. Si tu mets Bernardo à droite, De Jong avec Verratti et comment ça s'appelle, et un neuf. Alors, je trouve que Vlahovic ferait pas tâche là. Et perso, je sais qu'il y en a qui seraient pas d'accord, mais je garderais en doublure Ekitike et voire Icardi. Ça ferait quand même une équipe, honnêtement, avec un certain management. Ça te permet de jouer sur plusieurs systèmes. tu peux faire du 4-3-3 ou du 4-4-2. Donc du coup, ça peut être intéressant si tu veux jouer sur plusieurs compétitions, parce que de toute façon, on l'a vu, dès que tu joues sur un seul schéma, en fait, les équipes, elles s'adaptent hyper vite, surtout en Ligue 1, elles sont assez physiques, donc tu peux perdre pas mal de joueurs. Et le fait d'avoir justement pas mal de balles dans le barillet, entre guillemets, bah, ça peut t'aider pour la multiplicité des compétitions.
Ok, à noter que Icardi a quitté le club, donc on va
Ah, c'est
en parler.
officiel?
Ouais, c'est
Ouais, 10
officiel.
millions.
On en
Ah, ok, d'accord.
parlera tout à l'heure.
J'avais pas vu que c'était officiel. J'avais vu que c'était en cours, mais je n'avais pas vu que
Mais
c'était
juste
acté.
pour rejoindre ça, mais évidemment, un De Jong, moi, comme je disais, il manque un 6 et un 8-10, tu vois, donc le 6 créateur, le 8-10 qui a vraiment plus volume de course, tout en étant technique et créatif.
Ah, Dryas est dans le chat et avec le pseudo Yoksu15, il est à proche de Jonathan David. Jonathan David qui est la propagande de Dryas.
Bah, il a pas tort, sauf que le problème c'est que à chaque fois on les gagne, on nous demande une somme faramineuse, quoi. Mais enfin, j'aime bien le profil de Jonathan David, hein, il est pas mal.
Bah, en fait, moi, ce que je comprends pas avec Jonathan David, c'est qu'il n'y a personne sur lui. C'est là où je me dis, il y a un problème dans ce dossier. J'ai jamais entendu Chelsea sur Jonathan David, personne, il n'y a absolument personne sur lui.
Ah, il y avait des offres, non?
L'année dernière, pas cette
Je pense
saison,
que c'est parce
j'ai.
que pour moi, il demande beaucoup, il demande 50 millions, Lille, mais. De toute façon, ils ont déjà le remplaçant, Lille, donc à mon avis, ça va se décanter. Avec encore un joueur qu'ils sont allés chercher en Belgique, à mon avis, qui vaudra 60 dans 2 ans, lui aussi. Mais il me semble
Ok.
qu'il y avait des offres d'Angleterre, ouais. United notamment, je crois, puis ça parlait aussi de Tottenham, etc. On verra.
D'accord. Bon, il y a la rumeur qui est sortie hier qu'on a traité Ousmane Dembélé qui est tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Déjà, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et deuxièmement, si on partait du principe que Mbappé y resterait, on partirait sur un 4-3-3 Mbappé Dembélé avec un numéro 9. Donc, je voulais vous demander, dans cette histoire, Neymar, il devient quoi? Vas-y, Basto.
J'étais pour l'année dernière quand Dembélé était libre et gratuit. On n'a pas voulu le faire. Maintenant, on vient quand il en vaut 50. Peut-être qu'on viendra même mi-août quand il en vaudra 90 et que la clause temporaire aura sauté. Je ne sais pas. L'idée, c'est de l'avoir au prix le plus cher. Non, évidemment, c'est un profil qui nous manque. Ça fait partie des ailiers provocateurs, comme on dit. C'est un profil qui nous manque. Maintenant, on connaît sa fiabilité physique, malheureusement, un de plus. Donc Neymar où il jouera, bah, c'est déjà entre Neymar et Dembélé. Si on a la chance que les deux ne soient pas blessés en même temps, ce sera déjà une bonne nouvelle. Si tout le monde est dispo et que Mbappé reste, bah écoute, je sais pas trop. Peut-être Neymar au milieu de terrain dans un 4-3-3 en espèce ou 4-2-3 en espèce de 10, c'est une possibilité aussi.
Je vois, bah, Mbappé joue pas et tu mets Ney à gauche.
Non, non,
Hein.
non. Non,
Ney
Neymar
à
au final,
gauche.
c'est possible.
Bah, franchement, à 31 ans, je le vois pas être encore ailier sur le côté gauche du Paris Saint-Germain. J'ai vu certaines personnes qui voulaient le mettre en 8 dans le 4-3-3. Je pense pas qu'il a le placement, etc. Pour ne pas déséquilibrer le bloc.
Ouais.
Je vois pas qu'est-ce qu'il veut en faire, à part si on repartirait sur un 4-4-2 losange ou un 4-2-3.
Parce qu'en 4-3-3, Neymar sur l'aile. À la limite, si t'as Nuno Mendes qui a, t'imagines en plus c'est Lucas Hernandez, l'animation de ton côté gauche.
Ouais.
Voilà.
Et toi, Sam, tu penses quoi de Dembélé et du coup du sort de Neymar s'il arrive?
Non, mais tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, on en parlait l'année dernière, Nyx. C'est pas quelqu'un que, comment te dire, que j'apprécie en fait particulièrement, entre guillemets, Dembélé, mais je trouvais ça cohérent parce que, comme disait Basto, c'était gratuit. J'ai pas compris pourquoi on l'a pas pris l'année dernière, parce que comme c'est gratuit, si tu veux, tu perds le salaire, mais tu perds pas grand-chose. Effectivement, c'est un peu incohérent que Compos l'ait refusé l'année dernière, mais maintenant on veut le prendre à 25, enfin 50 millions. Mais oui, si tu veux, à droite, c'est un des mecs qui percute le plus. Alors, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il se blesse beaucoup. Le souci, c'est que tu as un dilemme. Soit on prend un mec comme Bernardo Silva, on met le paquet, et là-dessus, je suis 100% dessus. Mais après, derrière, je ne trouve pas beaucoup de profils, pour pas dire. Enfin, j'en trouve pas. c'est qui puisse avoir autant d'impact, d'apport. Et nous, pour l'instant, on n'a pas un schéma solide. Si tu n'as pas un schéma solide, le temps que tu le construises, il te faut comment te dire, des facteurs X. Des facteurs X, là, tu n'en as pas beaucoup. Tu as Mbappé, tu as Neymar, tu as des mecs comme Dembélé. Donc, par rapport à l'équipe, oui, ça me semble le plus logique, quoi. Non, mais par contre, par rapport à Mbappé, je vous trouve un peu, comment dire, optimiste, parce que je ne pense pas qu'il rejoue. Hein. On connaît comment le Qatar il est sur certains sujets. Franchement, là, lui, il est parti au clash. Et je pense pas du tout qu'on le reverra de l'année. Hein. À mon avis, c'est soit il part, soit il va rester sur le banc. Hein. Ils sont prêts, je suis quasi sûr qu'ils sont prêts à s'asseoir sur la saison que de voir Mbappé rejouer. Hein. Donc, à mon avis, il faut plus compter sur Neymar et je suis pas aussi pessimiste. Effectivement, il a pas mal de casseroles. Mais en tout cas, l'année dernière, pendant 6 mois, quand il revient, enfin les 6 premiers mois, c'est lui qui est en feu. Et à voir, parce que si tu regardes bien même les stats, enfin en attaque, c'est lui qui court le plus cette année avant sa blessure. Donc, je l'enterre pas complètement. Je n'enterre pas complètement et de toute façon, tu peux pas faire autrement qu'avec lui parce que tu peux pas acheter d'ailier digne de ce nom avec le fair play financier et tout ça, quoi. Donc pour l'instant, pour moi, je trouve qu'il faut pas, il faut pas l'enterrer. C'est un type quand même qui cavale pas mal, qui défend pas mal. On attaque, on a vu ce qu'il a fait. Donc voilà, peut-être que avec d'autres joueurs. Déjà, j'ai trouvé en fait, je sais pas si vous avez vu les matchs de la prépa, mais le fait qu'il n'y ait pas un Mbappé, il y a une chose qui était positive que j'ai remarqué par rapport à l'équipe, c'est qu'ils se cherchaient l'équipe. Enfin, c'est-à-dire que les joueurs, ils se regardaient, critiquaient. Quand tu avais Mbappé sur le terrain, ils n'arrêtaient pas de le regarder. Et je trouve que c'est une chose horrible dans une équipe parce que tu es lisible, c'est-à-dire que tes adversaires, ils savent d'où tu viens. Et c'est peut-être un mal pour un bien que Mbappé ne joue pas parce qu'en fait, on a trop tendance à lui laisser le ballon et dire, allez, tiens, on te donne le ballon et débrouille-toi. Et les types après, ils ne pensent pas à se replacer, ils ne pensent pas à apporter le danger. C'est ce qu'on voit depuis pas mal de temps, malheureusement, chez notre équipe.
Ouais, j'ai pas vu les matchs de prépa. J'ai pas vu les matchs de prépa, mais au-delà de Mbappé, il n'y a pas Neymar et Messi non plus. Donc c'est vrai que tu enlèves les trois. Forcément, ça change. Bah, c'était le seul plan de jeu de l'équipe depuis 2 ans. Donc les joueurs doivent se découvrir. Ça se trouve, certains se découvrent même qu'ils sont dans le même 11 depuis 2 ans. Tu vois.
Ah, mais c'est ça, hein. Tu sais, c'était drôle un petit peu, même Vitinha, tu vois, en fait, il montait plus, mais il était un peu perdu, mais tu vois que là, il commence à reprendre, entre guillemets, ses sensations de football parce que on voit qu'il a été brimé. Je pense que Galtier, en fait, c'était un petit peu vraiment la culture française, entre guillemets, de la DTN, parce que c'est le type qui va te dire, tu montes pas et puis tu files la balle devant. C'est le football que je déteste et c'est un vrai
On est
football.
Girard 2.0.
Exactement, c'est ça.
Bon, Anthony, au lieu de me vanner, tu as le lien, si tu es dispo, rejoins-nous et comme ça on va rigoler tous ensemble. Allez, vas-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, Anthony m'a fait perdre mon fil. On va avancer dans le live. J'ai vu tout à l'heure un commentaire. Bernardo, je le vois pas venir cet été. Guardiola peut pas perdre. Gundogan, Mahrez, Walker en un mercato. En
Si
plus,
ils ne veulent
Silva.
pas vendre au PSG, il faut l'accepter, hein.
Non, mais la question est, entre guillemets, pourquoi on a attendu que Gundogan, Mahrez et
C'est
Walker
ça.
soient quasiment tous partis pour pouvoir attaquer Bernardo? Si tu le faisais avant Mahrez, par exemple, peut-être que City aurait été plus enclin à le vendre. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez récurrent dans plusieurs dossiers. On est toujours à la traîne. Par exemple,
Exactement.
l'attaquant de l'Atalanta, là, je ne vais pas écorcher son nom, je veux dire Højlund. Manchester United est dessus depuis 3 mois. Toi, tu fais rien dessus. Et là, tu arrives dans la danse aux dernières minutes. On dirait que c'est des amateurs. Ça fait des années que ça dure. Ils font des dossiers, ils arrivent en retard, genre en mode l'argent, on va tout arranger. On va juste envoyer de l'argent et on va passer tout devant tout le monde. On va doubler tout le monde. Moi, j'en ai marre de cette gestion. Je sais pas ce que tu en penses, Basto.
Bah, c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un plan A pendant 6, 7, 8 mois, puis tu le rates, et puis tu n'as pas de plan B, et tu arrives en fin de mercato dans l'urgence, avec des clubs qui vont faire surpayer leurs joueurs, évidemment, et qui ne sont plus des plans A. Donc, on se souvient l'année dernière, on finit avec Ruiz Soler au milieu, notamment le dernier jour. Maintenant, Bernardo, comme j'ai dit, c'est City, je ne sais pas si c'était jouable. de premier abord, même ce transfert. Après, lui, en plus, il préférait le Barça. Donc, lui aussi, Bernardo Silva, Bernardo Silva temporisait. Mais globalement, hors Bernardo Silva, oui, on a l'impression que là, c'était soit Kane, soit Osimhen, alors qu'on sait que les deux, c'est très compliqué, voire impossible à faire. Et là, on se retrouve avec, depuis deux semaines, à avoir plein de noms qui circulent. Alors, un Vlahovic par là, finalement, non. Ramos, mais c'est trop cher. Là, la dernière rumeur, c'est le Danois de l'Atalanta. Moi non plus, je n'ai pas envie d'écorcher son nom du coup. Le nouveau Haaland, comme il est surnommé. Mais, et puis, on va finir avec qui ? Le suspense, on va peut-être finir avec un œuf surprise le dernier jour de Mercato. Je ne sais pas qui sont capables de nous ramener, mais j'ai peur.
Tu as une dédicace dans le chat.
Ah, ça y est, le vrai. Cette
fois-ci. Vas-y, Sam, on t'écoute sur cette gestion.
Oui, mais de toute façon, ça date pas de maintenant. Et moi, je comprends pas comment les gens sont surpris. Regardez le mercato d'hiver, regardez le mercato d'été. Moi, pour moi, ce qui se passe maintenant, en fait, c'est que depuis l'histoire Mbappé, si vous regardez bien, c'est plus le même recrutement. Je pense que Nasser Al-Khelaifi a repris la main. Et peut-être que là, il s'en veut et on. C'est là où je crois à la surprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un Harry Kane ou, et par rapport même Bernardo Silva, c'est possible de le faire parce que ça m'étonne de la part de Manchester City. Je ne les ai jamais vus retenir un joueur. Ce serait la première fois que je les vois aller un petit peu au bras de fer avec un joueur. Et là, pour moi, ce serait une question d'orgueil. Parce que, par exemple, ils ont eu plusieurs joueurs. J'étais surpris quand ils ont vendu Ferran Torres qui était en plein boom chez eux. Ils l'ont vendu pour pas cher au Barça, ils l'ont vendu pour 50 millions, alors que c'était un des fers de lance de leur attaque à l'époque. Ils ont vendu, comment il s'appelle, Gabriel Jesus. Bon, il était semi-remplaçant, mais il était quand même, je le trouvais pas trop mal, mais ils ont vendu beaucoup de joueurs, enfin, qui étaient quand même prépondérants dans leur jeu. Et puis, c'est pour ça. Mais simplement, là où je vous rejoins plus deux, c'est que, effectivement, notre problème, c'est le travail en amont. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, le PSG, arrive comme une fine fleur à la fin du bal et en fait veut avoir le meilleur. Donc le football, c'est pas comme ça que ça marche. Le football, c'est tu le travailles avant, et bien on va voir si c'est là où je vais juger en fait Nasser Al-Khelaifi, parce que j'ai l'impression que là, il a mis un peu Compos de côté, parce que c'est Compos c'était qu'avec comment il s'appelle là, avec Mendes. La plupart c'était que l'équipe Mendes, et donc du coup il s'est bien fait son beurre, notamment avec Ugarte et d'autres. Et là on va voir si comment il s'appelle Nasser Al-Khelaifi, il va nous sortir un Harry Kane. Moi, je pense que c'est possible parce qu'il a quand même d'assez bonnes relations, que le propriétaire, il a des soucis Lévis. Pas d'élite, tu sais, au-dessus de lui, je sais plus comment il s'appelle.
Ah oui. Il a fait un délit d'initié ou un truc comme ça. Ouais, là, il a fait un délit d'initié.
Exactement. Et donc, il faut qu'il liquide un peu les trucs le plus vite possible parce que sinon, en fait, ses avoirs peuvent être bloqués. Et donc, du coup, en fait, ça peut donner une transaction. Mais à nous aussi de se mettre au niveau par rapport à ce genre de deal et de pouvoir en profiter, comme l'a fait le Bayern, comme l'a fait le Real ou d'autres grandes équipes. Hein. Et donc, c'est là que j'attends, je te dis, de voir si Nasser Al-Khelaifi va nous réserver un petit Harry Kane, un petit Vlahovic ou Bernardo Silva. Je pense vraiment que c'est possible. Hein. C'est loin d'être infaisable pour moi.
Si Vlahovic, Nick sera très content.
Qui Vlahovic? Ah non, je veux pas de Suzanne plus Belgique, ça va aller.
Après, tu sais, le jeune, on n'a pas de certitude dessus aussi, Nix, hein, le jeune de l'Atlanta. Moi, je le veux bien aussi, mais le problème, je crois qu'on va on va nous le faire payer très, très cher. Hein.
Vlahovic, je le veux que d'une seule manière. C'est-à-dire qu'il arrive en septembre, tu l'opères direct et on n'entend pas parler de lui avant février. C'est la seule façon que je le prends. Parce que ce mec-là, tant qu'il n'a pas opéré sa pubalgie, faut pas compter sur lui. Chaque année, il va être absent 2-3 mois avec sa pubalgie. Tant que tu l'opères pas la pubalgie, ça va revenir. J'ai vu qu'il y a un petit malin là dans notre effectif qui fait exprès de rejeter toutes les offres qu'on lui propose. Et je me demande, est-ce que dans sa tête, son plan ne serait pas d'essayer de s'intégrer dans l'effectif de l'année prochaine? Je ne sais pas si vous voyez de qui on parle. C'est un certain champion du monde actuellement qui était sur le banc, mais qui a gagné la Coupe du Monde quand même. On parle de Paredes, bien évidemment. Est-ce que pour vous, le but de Paredes est de rester au Paris Saint-Germain et d'essayer de se faire une place dans le 11 de Luis Enrique? Basto.
Bah non, déjà il est écarté, il n'est même pas pris dans la tournée, il n'était pas.
Ils vont revenir, les mecs du loft, ils ne peuvent pas rester en loft.
Ouais, mais ils resteront à côté. S'ils sont plus de 10, je crois que tu as le droit.
Oui, s'ils sont plus de 10, je pense pas qu'ils
resteront. Ton loft, il est grand, hein, tu peux en mettre 20 hein, avec notre effectif. Non, par les têtes, j'y crois pas du tout. Je pense pas, comme je l'ai déjà expliqué, je pense pas. En plus, c'est une fausse idée que ça correspondra à Henrique. Henrique, il aime des 6 qui sont assez vicieux, mais discrètement, et qui sont calmes. Paredes, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui s'énerve rapidement et qui, lui, a du vice. Mais alors, tu vois arriver à 10 km, hein, il n'est pas discret. C'est pas Mota, c'est pas Busquets, c'est pas Rodri, etc. Donc, je ne pense pas que ça corresponde à Luis Enrique de base. Et en plus, le PSG veut le vendre. Donc, non, je pense que lui ne reviendra pas. Je ne pense pas que ce soit dans les plans, ni du coach, ni du club.
Et toi, Sam, tu penses que c'est le plan du joueur d'essayer de rester et d'aller jusqu'à la fin du loft pour devoir gratter du temps de jeu et prendre ses 8 millions de salaire par an?
Ouais, je sais pas, je sais pas ce qu'il veut faire exactement. Après, effectivement, là où je rejoins Basto, c'est qu'il correspond pas du tout au style d'Enrique. En fait, le souci, c'est même pas le vice, je trouve qu'il est trop lent. En fait, c'est un joueur, en fait, son style, il a pas assez de VMA. Si tu regardes bien, en fait, le jeu de, comment il s'appelle, d'Enrique, il est fait avec pas mal de transitions et de mouvements. Et c'est une palette que Paredes n'a pas. En fait, il a très peu. Il arrive, c'est pour ça que quand il était en Ligue des Champions, parfois il est arrivé à faire des grands matchs parce que tu sens que ce mec-là, en fait, en vrai, quand il a une grande concentration, quand il a une arme, il te fait des matchs qui peuvent être monstrueux. Et il arrive à se surperformer dans certains rendez-vous. Mais le souci, c'est que il n'est pas assez sérieux et régulier dans sa tête. Le foot, pour lui, c'est comme un peu une partie de plaisir, et il oublie le professionnalisme, et ça se ressent dans son jeu. C'est-à-dire que c'est là où il a un manque d'intelligence au niveau de son vice et au niveau de, comment te dire, de sa gestion de, que ce soit de ses mouvements, de son humeur par rapport à l'équipe. C'est-à-dire que parfois, il s'oublie déjà dans certains matchs, il fait des grosses erreurs, notamment dans les petits matchs, et tu vois que l'intelligence de jeu, de savoir s'économiser, de savoir se placer et d'avoir justement dire, en fait, les mouvements des joueurs autour, bah, malheureusement, il les a pas. C'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif, c'est pour ça qu'il aime beaucoup jouer avec les copains, que ce soit Neymar, et qui joue, entre guillemets, un peu moins avec Mbappé ou d'autres. Et c'est dommage parce que malheureusement le foot ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionnera bien dans une équipe où il va bien s'intégrer, mais nous c'est pas ça, surtout pas avec Enrique, ça va pas accrocher quoi.
Ok les gars, vous allez m'obliger à prendre ma voix de monstre parce que je vois que vous êtes 239 et il y a que 56 likes. Donc
likez, sinon je vais me fâcher.
56 j'aime, c'est pas assez les gars, n'oubliez pas que si vous faites 700 j'aime d'ici dimanche soir, bah du coup il y aura un autre bon d'achat avec pour pouvoir payer votre flocage sur le Nike Store, donc likez les gars. On va enchaîner ensuite sur Pedri, parce qu'il y a une folle rumeur depuis hier soir sur les réseaux que je ne comprends pas. Alors, on va remettre le contexte à zéro. Le Barça a pas mal de problèmes d'argent. Et ils ont signé un contrat avec le Qatar pour que le Qatar exploite la marque du Barça au Qatar. Et du coup, je crois que c'est un deal aux alentours de 100 millions, quelque chose comme ça, qui permettra au Barça de revenir plutôt de manière positive dans les clous du fair play, de la Liga, etc. Mais de ce qui a été dit sur les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, le Qatar aussi, c'est dans un système donnant-donnant où il y aurait peut-être un joueur du Barça qui irait au Paris Saint-Germain. Et dans ce contexte, certaines personnes disent que Pedri aurait une clause secrète à 110 millions d'euros, alors que pour nous, moi j'ai vu 1 milliard, mais bon. On en parle comme ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, mais je ne vous dis pas que c'est vrai. Du coup, dans cette possibilité, Basto, qu'est-ce que tu penses de ce dossier?
Moi, déjà, de base, j'y crois pas du tout à cette info. Elle vient d'un site qui a fait un peu un des all-in en ce moment. Ils ont eu Luis Enrique devant la mêlée des médias. Ils ont annoncé Kane, c'était fait, on attendra. Ils ont annoncé Mbappé, c'est du storytelling, tout est ficelé à 250 millions au Real. Ça dure un peu quand même pour du storytelling. Ils ont annoncé Campos viré en fin de mercato, donc tout ça, on verra. S'ils ont tout bon, on dira bravo, ils avaient des vraies infos. Maintenant, j'ai du mal à croire. Ils ont Luis Enrique, bravo à eux. Pedri, je ne vois pas du tout. Si le Barça devait libérer un joueur au PSG, comme tu dis, avec un accord Paris et tout, ce serait plus un De Jong, parce que ça fait 2-3 ans qu'ils ne sont pas contre le vendre. Et ça correspondrait très bien au PSG. Pedri, c'est le joyau du Barça, c'est le petit, c'est leur petit. T'as Gavi et Pedri, c'est les deux seuls qui ne vendront jamais. Donc je n'y crois pas du tout. Maintenant, si ça devait se faire, bah évidemment, on prend. Évidemment, Pedri peut jouer remplaçant sur l'aile. C'est ton 8-10 qui apporte de la tonicité, du volume de course et qui est très technique et créatif et qui en plus est buteur. Donc oui, si c'était vrai, je pense que personne ne dit non à Pedri. Maintenant, je n'y crois pas une seconde.
Après, je conçois bien que c'est le joyau du Barça, etc. Mais au bout d'un moment, si ton club il fait l'Europa League deux saisons de suite et que tu n'arrives pas à recruter derrière, à te refaire une vraie équipe parce que tu es bloqué.
Ils arrivent, hein. Ils prennent encore Gundogan. Ils attirent toujours. Hein.
Oui, ils attirent par le nom, mais là, ça fait quand même 2 années en Europa League. Ils ont attiré Lewandowski. Oui, d'accord, ils ont joué l'Europa League. Je ne suis pas sûr que cette année.
Hein? Ils ont été champions d'Espagne, ils perdent en poule de Ligue des Champions, oui, c'est sûr que ça, mais c'est pas pour autant. Ils jouent la Ligue des Champions cette année, non?
Ouais, ils sont champions, oui, on verra bien ce que ça donne. Après, si ça sort en poule encore, je sais pas. Oui,
une troisième fois peut-être. Mais...
Et toi, Sam, tu t'en penses quoi?
Non, mais il a raison, Basto. Enfin, c'est vrai que le Barça a quand même un certain pouvoir attractif, hein, encore. Je les vois pas du tout perdre Pedri. Enfin, c'est vrai que la rumeur, elle est. Elle est bidon parce que déjà elle a été démentie par un journaliste espagnol ce matin. Donc effectivement, il a raison, le storytelling, j'ai pas envie de dire de quel site est assez un peu ridicule quand on dit que tout est ficelé pas sur Mbappé alors qu'il est puni. Je veux dire, s'il était puni, il n'y aurait pas besoin de. S'il était pas puni, enfin, si tout était ficelé, il n'y aurait pas besoin de le punir, il n'y aurait pas besoin de lui faire subir tout ça. Il ne ferait pas subir ça au club non plus. Donc non, c'est quelque chose qui est ridicule. Enfin, ils vont plus se débarrasser de Jong qui peut leur ramener de l'argent. Et moi, je crois à ça parce que sinon, pourquoi ils auraient pris Gundogan? Parce qu'en fait, si tu regardes bien pour les postes maintenant, ils ont Gavi, Pedri, Gundogan, Jong, Kessié. Je crois qu'ils l'ont vendu. Kessié, non, il est parti en Arabie Saoudite. Je sais pas si c'était.
Je crois qu'il est encore là. Il veut s'en débarrasser. Mais je crois qu'il est encore là.
Ouais, ils ont quand même pas mal de milieux, on va dire, de gros calibre, pour pouvoir faire les compétitions, pour pouvoir se délester d'un De Jong qui a quand même un gros salaire. Si je me rappelle bien, il était aux alentours de 12. Il avait fait un arrangement à un moment pour différer ses mensualités, comme il l'en fait à tout le monde. Mais en fait, l'arrangement, il va s'arrêter maintenant. Donc, c'est le meilleur moment pour eux de vendre De Jong. Que de vendre Pedri. Pedri, il a pas de gros salaire. Mais oui, effectivement, comme dit Pasto, tu peux pas refuser Pedri. Pedri, pour moi, c'est le milieu qui m'a impressionné jeune depuis Verratti. C'est-à-dire, j'ai pas vu de milieu m'impressionner aussi jeune depuis Verratti. C'est que dès que tu le vois, c'était à Pescara, dès que tu le vois, même s'il est en D2 italienne, tu vois que ce petit, en fait, il est hyper fort techniquement. Bah, Pedri, c'est un peu la même chose. Tu n'as pas besoin de le regarder très longtemps pour voir qu'il. Oui, c'est des monstres. Maintenant, j'y crois pas du tout. Voilà.
Ok. Petit sujet assez rapide, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est la meilleure chose pour tout le monde. Renato Sanchez directement peut-être vers la Roma. Encore une fois, on voit que le Paris Saint-Germain ne sait pas vendre, puisque encore une fois, ça a l'air d'être une option d'achat qui n'est pas obligatoire. Donc le joueur pourra probablement revenir l'année prochaine, comme on a fait avec Wijnaldum. Je ne comprends pas ce contexte d'aider les clubs italiens à chaque fois. Tu leur envoies Wijnaldum, après tu leur envoies, après tu envoies Renato Sanchez, l'année prochaine il revient, après on leur prêtera quelqu'un d'autre. Baston, on est d'accord que cette opération, en dehors du côté financier, c'est une bonne chose pour toutes les parties.
C'est pas qu'on ne sait pas vendre, c'est qu'on ne sait pas acheter. Renato, tu le prends, tu sais exactement ce qu'allait se passer. Ça fait 7 ans qu'il est blessé comme ça. Les gens disaient, ouais, mais il joue quand même 30 matchs par an, mais l'année dernière, il en joue 27. Mais en fait, tu as l'impression qu'il en a joué 3. Parce que c'est toujours de retour de blessure où il joue 10 minutes, où il joue 12 minutes. Et puis quand il joue ses 3 matchs, il n'est même pas au niveau parce qu'il doit avoir du temps de jeu pour retrouver du niveau. Mais ça fait 5-6 ans. Alors il a fait un bon match contre Chelsea et Milan avec Lille. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu es bloqué parce que tu as un joueur qui t'a donné 6 millions de salaire, qui est tout le temps blessé. Donc il n'y a personne qui va le recruter autrement que d'un prêt payant avec option d'achat. Donc tu ne peux pas faire mieux. Donc même financièrement, c'est soit tu le gardes dans ton effectif en sachant ce qui se passera, soit tu le prêtes au premier club qu'il veut, et c'est la Roma. Hein. Ils voulaient Wijnaldum, maintenant ils veulent Renato. Je crois qu'ils veulent aussi Ruiz dans les dernières rumeurs. Peut-être qu'on a évité un Mourinho au PSG qui aurait mis un milieu Wijnaldum, Ruiz, Renato. Du coup, tu vois, c'est la chose qu'on peut se dire. Non, c'est évidemment une bonne solution et pour le club et pour le joueur qui de toute façon n'a plus d'avenir à Paris.
Et avant de demander l'avis de Sam... Je tiens aussi à rajouter, Sam, que de ce que j'ai vu, le Paris Saint-Germain participerait à payer le salaire du joueur. Je te laisse continuer, Sam.
Ah ouais, il est haut le salaire.
En plus, je veux dire, c'est une des choses que j'allais te dire. J'allais te dire, j'attends de voir les conditions du prêt parce que c'est souvent comme ça, en fait, malheureusement, tu vois. Et si c'est pour se taper, enfin, si c'est pour se taper 2 millions, mais en fait, il faut savoir qu'en plus, le salaire de Renato Sanchez, il est aux environs de 7-8 millions, il me semble. Donc, en fait, les 2 millions ne servent à rien. Donc, si tu réfléchis intelligemment, personnellement, je pense que ça sert à rien, mec blessé, que tu l'envoies à la Roma parce qu'on l'a vu avec Wijnaldum. Wijnaldum, tu l'as envoyé là-bas, en fait. Ils ont besoin d'avoir un cadre, comment dire, stable. Donc, le mieux pour l'instant, je pense que c'est de le retaper et de voir, en fait, jusqu'où tu peux l'amener au maximum. Parce que tu vas pas t'en débarrasser. Si tu te précipites à l'envoyer à la Roma, il va faire une mauvaise saison, il va se re-blesser, il va se répéter, il va revenir ici. Ils vont mieux le retaper pendant. Tu vas me dire quelque chose, Vasto?
Il s'est pas déjà blessé là, parce qu'il a joué le premier match de prépa, puis il est plus rentré, il s'entraînait solo. J'ai l'impression qu'il s'est déjà
ouais, tout à fait, ouais. Mais de toute façon, je sais pas si vous avez vu une photo cette année. Alors ça m'a choqué par contre de Renato, où le mec d'habitude, tous les ans, il est hyper musclé, il est hyper fit. Et j'ai vu une photo de lui où il a perdu ses muscles, il commence à avoir un peu de ventre et tout. Et là, je m'interroge vraiment sur le club. Non, mais je te jure, enfin, si quelqu'un peut regarder, en fait, je le retrouve, c'était là, c'était il y a 3 semaines, un mois. Et je me suis dit, mais la capacité du club à même un titre comme ça, pourtant il se blesse, hein, mais c'est-à-dire que c'est un mec quand même en se blessant, il fait de la muscu, tout ça, qui prend soin de lui. Et c'est-à-dire, même chez nous, c'est tellement cool, c'est tellement chill que, en fait, c'est dégonflé entre guillemets, quoi. Et ça te donne une idée de la préparation et de l'exigence chez nous. Donc c'est pour ça, tu vois, Basto, quand tu parles par rapport à Mourinho, bah moi, Mourinho, il a un jeu dégueulasse, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'aurais préféré avoir un mec, un diable dans le vestiaire qui les fouette entre guillemets, qui arrive à les motiver. Et même s'il ne les motive pas, il fait comme il a fait dans des clubs comme Manchester, machin, il dit, oh mec, écoute, si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. Mais au moins, le mec, il va l'afficher devant tout le monde, comme Pogba, comme Dele Alli et comme d'autres. Et ça veut dire que maintenant, il a tellement dit de choses sur certains joueurs que ça s'est confirmé. S'il le dit à des joueurs chez nous, ils savent qu'ils sont morts. C'est-à-dire que si ce mec-là, il a une telle aura ou une telle, comment te dire, parole respectée, bah, s'il ne se bouge pas du coup, en fait, ce sera terminé pour eux. Mais là, c'est vrai que c'est un peu club-mètre chez nous. Et un mec comme Sanchez, bah, tu vas l'envoyer à Roma, il va se péter, il va revenir. Et tu vas être obligé de le résilier et de lui payer son salaire en plus, c'est ça. Donc, il vaut mieux le garder pour moi.
Parce qu'en plus, on a fait la bêtise de lui donner 5 ans de salaire en connaissant tu lui donnes pas 2 plus 1 ou 3, tu lui donnes 5.
Merci, Campos. Qu'est-ce que j'allais dire? Les gars, tous ceux qui nous regardent, vous êtes 257, je vais vous demander un service. Là, actuellement, sur la chaîne, on a 7979 abonnés. Ça veut dire qu'il nous reste 21 abonnés avant les 8000. Je vois, vous êtes 257, je pense qu'il y en a, c'est pas sûr qu'ils sont abonnés, juste vous regardez tout le temps, mais vous avez oublié de vous abonner. Essayez de nous faire taper les 8000 avant la fin du live, là c'est facile, vous cliquez juste sur s'abonner, on tape les 8000. Merci beaucoup la famille. Bon, ensuite, après Renato, on avait Garbi. J'ai pas envie de tomber sur Garbi, mais déjà, ça fait plusieurs lives avant les matchs de préparation. Je disais que je vois rien dans ce petit, à part, vas-y, on a l'impression qu'il dribble, mais déjà, il n'y a pas de finition, etc. Et pour avoir regardé ces matchs avec les jeunes, c'est un des piliers de l'équipe des jeunes. Mais à chaque fois que je l'ai vu jouer en pro, j'ai l'impression d'un mec qui force, etc. Je ne sais pas s'il faut qu'il mette un but pour qu'il se détende ou quelque chose comme ça. Mais là, Garbi, franchement, j'ai pas envie de le garder. Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut à minima prêter. Et même, je pense pas qu'on aura des regrets si on le vend. C'est comme j'ai dit la dernière fois dans un live précédemment, il y en a plein, je vois quelque chose, mais lui, je vois rien. Merci à tous ceux qui réagissent et qui vous abonnez en même temps. Et Basto, on écoute ton avis. Merci à la famille.
Moi, je suis plutôt de ton avis. Hein. Les entrées qu'il faisait, les rares entrées qu'il a fait en pro, franchement, je ne lui trouve pas quelque chose. Il y en a qui font des mauvais matchs, mais tu leur vois quelque chose. Garbi, c'est vrai que je ne lui vois pas, je lui vois pas quelque chose de particulier. Je ne lui vois pas le niveau PSG, du moins. Je pense qu'il a besoin de partir dans un prêt, dans un club moins huppé. Hein. Alors, ça a failli se faire à Nice, mais je pense que ça aurait déjà été un peu haut pour lui d'entrer au mercato d'hiver s'il n'y avait pas eu une erreur de fax à 5 minutes près. Denis Soye, il serait là-bas. Peut-être un prêt dans un club de bas de tableau de Ligue 1, j'en sais rien, mais voilà, j'ai du mal avec, en plus, pareil sur ce qu'il dégage au niveau mentalité, même si je ne connais pas le bonhomme, sur ce qu'il dégage, il a un côté assez nonchalant, etc. etc. Et c'est déjà quelqu'un qui a 18 ans à représenter la France, puis l'Espagne, et finalement choisi la Tunisie en sélection. Ouais, donc le mec ne sait pas trop, n'est pas sûr de lui. Un mec qui choisit 3 sélections en l'espace d'un an, ça peut en dire quelque chose sur sa mentalité, pas de mercenaire, mais de, je sais pas. Voilà. Donc, j'accroche pas avec lui. Et je pense pas que le PSG en ait besoin. A priori, Lemina a fait un match beaucoup plus intéressant. J'ai pas vu le match, mais tout le monde en a dit du bien.
Je confirme.
Par rapport à un Garbi, donc autant essayer de. S'il fallait en garder un des deux, autant garder Lemina. Ouais.
Et toi, Sam, t'en penses quoi de Garbi?
Ah, mon petit Garbi, mon petit Titi. Pour moi, Garbi, c'est le Pokémon Evolution 1 qui n'a jamais fini son évolution, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, il est resté bloqué à 14-15 ans, quoi. C'est malheureusement pour ce jeune, il avait des qualités à un certain âge, effectivement, de puissance, de vivacité, mais il a jamais poussé, le pauvre, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu ramènes un jeune de troisième et tu le mets avec les adultes, et ben c'est ce que j'ai vu en match de prépa, quoi. C'est-à-dire que ben, oui, il est virevoltant un petit peu, mais dès qu'il lui met un coup d'épaule, le pauvre, il va sur le terrain d'à côté, quoi, et ça fait un peu mal pour lui, parce que du coup. Bah, t'as l'impression plus que c'est de la pitié qu'autre chose, quoi. Donc là, non, enfin, franchement, clairement, à moins que ce soit, enfin voilà, que les Pokémon existent vraiment, qu'ils se transforment en évolution 2, mais moi je le vois pas réussir au PSG, quoi. Enfin, il lui manque tout, il lui faut 2 têtes de plus, il lui faut, il lui faut beaucoup, tu vois qu'il a de l'envie, il essaie de compenser avec l'envie, mais le pauvre, il a pas l'intelligence de jeu, il a pas des grosses qualités à ce niveau, je parle. Et malheureusement, même chez les jeunes, j'avais regardé certains matchs, c'était déjà limite. Mais alors chez nous, c'est même pas la peine. Et je suis vraiment désolé de lui tomber dessus comme ça. C'est pas que je veux lui tomber dessus ou quoi que ce soit. C'est un jeune, il a l'air gentil, il a l'air d'en vouloir, mais effectivement, je pense qu'il en veut beaucoup, mais qu'il est un peu perdu. Il sait pas comment s'y prendre. Donc du coup, c'est ça, j'empêche un peu ce que dit Basso. Hein. À un moment, il va là. Bah, c'est sur le terrain, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Même on l'a vu en prépa, il tiquait des fois, lui faisait la passe. Il remettait pas. Tu vois, il voulait absolument y tirer. Tu sais, il voulait marquer, il voulait prouver que. Il avait quelque chose. Le pauvre, je pense qu'il faut. Ouais, il vaut mieux qu'il change d'univers de club pour qu'il puisse, comment dire, garder en sérénité. Parce que là, ça se voit que des fois la marche elle est trop haute et malgré toute la volonté du monde, c'est un peu difficile d'y arriver au moment où, la manière dont tu veux. Là, moi, pour moi, il réussira pas comme ça en tout cas.
Ok, avant d'aborder le dossier Icardi, je vais quand même conclure sur ce sujet. Moi, je pense que si tu arrives à prêter Lemina comme tu as prêté Xavi Simons, l'année prochaine, quand les deux y reviennent, je pense que tu as deux ailiers, voire même Xavi, des fois, il joue un peu plus en faux neuf ou en deuxième attaquant. Tu as deux joueurs qui sont prêts vraiment pour être des 1 bis dans ton effectif. Parce que Xavi Simons, quand il va revenir... Je veux pas lui porter la poisse, hein. Moi, je pense qu'il est quasi titulaire. C'est remplaçant plus. Ouais, donc on voulait enchaîner sur Icardi. Icardi out pour Galatasaray. Encore un joueur acheté près de 70 millions. Qu'on a réussi à vendre pour un peu moins de 10 millions au Galatasaray. Là, on l'a acheté à quoi il y a 3 ans. Voilà, la perte sèche, elle est atroce. 60 millions de pertes pour un joueur qui n'a jamais donné satisfaction en plus. Qu'est-ce que tu retiendras de Icardi, Basto? Et attends, et est-ce que dans le contexte actuel où on n'a pas trouvé de neuf, est-ce qu'on n'aurait pas dû le garder en numéro 9 bis au cas où pour dépanner parce qu'on n'en a pas du tout?
Non, je pense qu'il faut mieux arrêter les frais avec des joueurs qui ont des difficultés, qui prêtent, qui reviennent. Je pense que le joueur non plus n'a plus sa tête dans ce contexte-là. C'est une histoire ratée. Icardi, de base, quand il arrive, j'étais archi pour. C'était un œuf que j'aimais beaucoup à l'Inter. Maintenant, on a fait une erreur, c'est de lever l'option d'achat de 60 millions l'année d'après, parce qu'on avait déjà vu sur les 6 derniers mois de cette première saison qu'il y avait des difficultés. Ça, au début, il y a eu une bonne connexion avec Mbappé, ça marchait bien. Puis d'un coup, ça s'est dilité. Icardi était esselé du jeu. et tu voyais que si tu levais l'option d'achat, ça allait être la même chose. Si tu gardais du moins le même joueur, le même effectif, les Mbappé, les Neymar, etc., ça ne pouvait pas marcher avec lui. Donc l'erreur, elle est là. Le faire en prêt, c'était une très bonne idée. Ça n'a pas marché, il fallait l'accepter. Pourquoi vouloir forcer en levant cette option de 60 millions, j'ai jamais vraiment compris, surtout qu'on n'avait pas une grosse marge financière et je crois qu'on met quasiment tous nos budgets de mercato cet été-là sur ça. Donc voilà, mais tant mieux s'il a réussi en Turquie. C'est un joueur que j'aimais bien. En Turquie, il y a une ferveur qui lui correspond bien. Donc c'est un club pour lui. A priori, ça se passe très bien là-bas, que ce soit avec le club, les dirigeants, les joueurs et les supporters. Donc grand bien lui fasse et bonne carrière à lui en Turquie.
Et toi, Sam, t'en penses quoi ?
Du coup, je sais pas, je suis dubitatif. Alors, je dirais pas que c'est un bon move parce que il faut voir aussi le fait que, comment ça s'appelle, la femme d'Icardi, en ce moment, elle a des problèmes. Elle est en Argentine, elle a des problèmes de santé, elle est pas prête de sortir d'Argentine. Et quelque part, pour moi, Icardi, ça te montre la gestion des joueurs du PSG. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Galatasaray, les dirigeants lui ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Par contre, tes photos de nu, tes trucs de nu avec Vanda, on te le dit de suite, il n'y a rien de ça chez nous. Donc, il s'est tenu à carreau avec sa femme pendant une année. Et en fait, on a revu l'Icardi de l'Inter un minimum. Franchement, enfin, il a fait quand même une très bonne saison à Galatasaray. Hein, attention, hein, les gens qui parlent de Turquie, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc, je sais pas, ça me laisse un peu dubitatif. Bon, on a retiré 10 millions. Je pense qu'on a très mal géré ce mec-là. C'est pas une quiche, comme on le dit. À l'époque, en plus, c'était un des meilleurs neufs qu'il y avait. C'était quasiment comme un Osimhen maintenant, quoi. Donc, effectivement, là où je peux comprendre ce que tu dis, Basto, je te rejoins. C'est vrai que sur la fin, on commençait à voir des choses qui n'étaient pas top. On ne pouvait pas deviner complètement, mais c'est vrai que ça sentait un truc un peu mauvais. Maintenant, voilà, c'est fait. On va voir par qui on va le remplacer. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que si c'est pour prendre un mec à 50 millions et qui te fait, entre guillemets, je ne sais pas, une Renato Sanchez ou une Fabien Ruiz, c'est ça qui me dérange, en fait, parce que jusqu'à maintenant, ce qui nous a toujours plombé, c'était surtout les petits joueurs, enfin, les transferts pas trop chers, entre guillemets, comme pour moi, Ugarte, voilà, pour moi, c'est une douille monumentale. Bah, c'est des petits trucs comme ça, en fait, qui te font mal.
Juste, le championnat turc est un bon championnat, mais en fait, quand tu regardes le classement des buteurs, à chaque fois, ça fait relativiser. Parce que t'as celui qui était meilleur buteur, qui est Ener Valencia, hein, pas celui qui jouait à United, etc. C'est un joueur qui avait mis 8 buts en 60 matchs à West Ham, et même au Mexique, je crois qu'il avait mis 6 buts en 50 matchs. Il arrive là, il te met 30 buts avec Fenerbahçe. Le deuxième meilleur buteur, c'est Mbaye Diagne, qui avait flopé en Angleterre. Ensuite, t'as Icardi, et t'as, en quatrième derrière, t'as Borini, qui avait flopé à la Roma, à Milan, et un peu partout où il est passé. Donc, t'as l'impression quand même que dans le championnat turc, certains buteurs revivent.
Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit, question à Basto. Est-ce que l'OM est plus fort pour toi cette saison?
à effectif actuel, ils sont pas plus forts, on a quand même des joueurs meilleurs, mais ils sont plus équilibrés, ils sont plus cohérents. Donc, est-ce que Paris est assuré de finir devant l'OM à effectif actuel? Je réponds non.
Ok. Qu'est-ce que j'avais encore? Ouais, il y a Ugarte qui a été plus ou moins honnête dans sa dernière sortie. Et j'ai vu un commentaire qui a dit, Ugarte a dit qu'il n'est pas bon balle au pied et qu'il n'est pas bon sans ballon et que ça coûte 60 millions tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vas-y.
Micro.
Non, vas-y, il t'a laissé la parole.
Ouais, bah, Ugarte, c'est sûr que... Après ça, sans ballon, il est plutôt bon. Il a ce pressing haut, il a ses premières sorties de balle, même si on ne le voit pas pour le moment au PSG, ses premières sorties de balle au pied pour se défaire d'un pressing. Maintenant, on sait que techniquement, son jeu de passe va être assez court et assez en retrait. Mais ça, on s'y attendait. Ça aurait pu être un joueur fait pour un Nagelsmann. Maintenant, quand je parle de cohérence, c'est que je ne vois pas Ugarte et Luis Enrique matcher. C'est plutôt ça qui me gêne. Après, Ugarte, on a vu au PSG, hein, la plupart des joueurs qui arrivent avec un déficit technique ont du mal au poste de milieu, ont du mal à s'imposer. On espère que ce ne sera pas le cas, parce que sinon, ça fera cher encore.
Il dit, le problème, c'est que le football, ça joue avec ballon. Non, mais Pour nuancer, G, il a dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'est pas bon balle au pied. Il a dit qu'il a des progrès à faire. C'est nettement différent. Ok, bon, on va faire un petit jeu vite fait. Pendant une minute, vous êtes DS du Paris Saint-Germain. Vous pouvez recruter que trois joueurs. Un milieu, un ailier droit et un neuf. Basto, on te laisse choisir.
Peu importe, on n'a pas de budget limité, etc. etc.
Non, c'est d'être réaliste.
Ah ouais, on va pas, donc c'est pas trois joueurs à 150 millions d'euros.
Non, pas 150 millions. disons que t'as un budget, t'as un budget à 280 millions.
Bernardo Silva à droite. Au milieu, c'était dur parce qu'il faut autant un 6 qu'un 8-10. Je suis un peu perdu. On va dire De Jong ou Kimmich. On va dire De Jong, c'est plus jouable. Kimmich, il ne voudra pas. Donc De Jong, Bernardo Silva est devant. J'ai une petite préférence pour Osimhen devant Kane, mais je ne serai plus dans le budget avec les 150 millions, donc ce sera Kane. Mais je pense que oui, Kane, Bernardo, De Jong, on serait pas mal.
Et toi, Sam?
Et après, il manque tout.
Bon. Il m'a piqué un peu mes chouchous, mais ouais, ce serait ça. Ce qui est faisable, ouais, c'est ça. Moi, Bernardo Silva, clairement, ce serait ma priorité déjà à droite. C'est le mec que je négocierai avec Manchester City jusqu'à la mort pour lui. Ensuite, effectivement, Kane. Kane, parce que je pense que c'est jouable. Il n'y a pas longtemps, je m'étais dit, pour dépanner, on aurait pu se faire prêter, mais maintenant c'est mort, l'autre, il est à con. Je sais que le profil peut paraître brut, mais je crois que pour la Ligue 1, il faut un petit peu une brute qu'on a pu. Et sinon, ouais, milieu, moi je vois De Jong de confirmer. Sinon, c'est dommage qu'on n'a pas sauté sur Gundogan. J'ai pas compris pourquoi on l'a pas fait. Parce que moi je trouvais vraiment que c'était une super occasion. Surtout quand tu vois le salaire qui lui a été offert à, comment il s'appelle, au Barça. Ouais. Donc sinon, je sais qu'il y a Goretzka qui est en renégociation avec justement Kimmich et tout ça. Ça peut le faire, hein, ces deux-là. Enfin, si t'arrives à sauter un de ces deux-là entre Goretzka et Kimmich, c'est parce que tu vois par exemple ce que j'aime chez le Real entre guillemets dans leur façon de gérer leur club, c'est que des fois en fait il y a des coups improbables comme ça qu'ils arrivent à faire. Ou alors, tu sais, il y a un truc, c'est Fabinho. Je sais pas si ça a déjà été fait avec l'Arabie Saoudite, mais moi, je me dis, je comprends pas pourquoi il va à l'Arabie Saoudite, alors que ce mec-là, il ferait pas de tâche dans notre milieu.
Je crois que Fabinho, c'était quasiment fin d'Arabie Saoudite, mais il y a un problème avec un de ses chiens qui
est... Ouais. Non, ça, c'était... Non, c'était pas le chien,
c'était un mytho, c'est un pote qui m'avait envoyé ça, j'ai pas cherché à vérifier. Non mais Fabinho, oui, c'est plus un milieu de décès. Mais il manque, parmi tous les joueurs qu'on cite, c'est vrai qu'il manquerait quand même, il manque quand même de la profondeur, quoi, surtout si Mbappé n'est pas là.
Ok, bah on va...
Lautaro Martinez,
j'adore ce joueur.
Après, le seul truc, c'est qu'il n'a pas trop de physique, tu vois, c'est ça qui m'inquiète un peu. J'adore Lautaro Martinez, tu vois.
Puis il préfère jouer avec un autre neuf autour, quoi.
Bah, 3-5-2, quoi. Du coup, on va essayer de juger un peu ce qu'ils ont dit dans le chat par rapport à la question. On a Pitouche qui dit Barella, Dembélé, Kane. Ça peut être pas mal. Yangsu, Kane, Dembélé, Barella, bah pareil. Vlahovic, Bernardo, De Jong.
Et pour les gens qui disent que Fabinho est blessé, je rappelle que c'est le joueur le plus utilisé par Liverpool. C'est juste une fausse légende, les gars, parce que je l'entends toujours ça. C'est le joueur le plus utilisé par Liverpool, Fabinho. Donc,
il y a un mec qui propose Bernardo Caissier. Caissier aussi, mais alors le Caissier, je n'ai jamais compris.
Ah non.
Ceux qui ont appris, je ne comprends pas comment on peut aimer ce joueur, en fait.
On est d'accord, Fabinho.
Caissier, j'ai du mal.
Valverde, Silva, Vlahovic.
Ouais, ça rentre dans le budget, je pense. Bernardo Caissier aussi mène. Goretzka, Dembélé, Kane. Ouais.
Ouais, non. Bah, moi, c'est ça.
Vas-y.
Excuse-moi. Osimhen, ce qui fait un peu peur, c'est... je sais pas, mais c'est cette blessure un petit peu. Alors, peut-être qu'il va s'en remettre, hein, mais... c'est juste que chez nous, j'ai l'impression que ça prend encore des proportions pires qu'avant, non.
Une attaque Neymar, Kane, Bernardo, ça manque de profondeur. Si on veut installer Bernardo à droite, faut prendre Hojlund.
Bah, tu prends même pas, sinon tu mets pas Neymar et tu prends Leao. Mais bon, on part dans le football manager complet.
ça aussi, c'est un... Franchement, le cas Leao, c'est un des cas qui m'énerve le plus parce que si Mbappé t'a dit depuis l'année dernière que entre guillemets il n'allait pas prolonger, Leao il était en phase de prolongation et dans un salaire qui est ridicule. Je crois qu'il gagne 5 millions. Même tu le prends à 10 millions, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Ouais. Tu doubles son salaire, il arrive, et puis ça y est, en fait, il remplace Mbappé. Mbappé, tu le dégages pour 200 millions, et puis c'est réglé, en fait. Je ne sais pas pourquoi on a attendu que Mbappé nous mette face au pied du mur pour faire quelque chose. Là en fait, tu avais le remplaçant quasi parfait, et il a prolongé.
J'étais persuadé de faire piller Mbappé, je pense.
C'est ça. C'est encore une mauvaise gestion.
Ouais. Après, je pense aussi que Compos, quelque part... il a dû dire à Nasser Al-Khelaifi, c'est bon, je gère la situation, je vais lui faire changer d'avis. Et que là, en fait, il s'est rendu compte que c'était pas le cas. C'est pour ça qu'à mon avis, il a fait un peu le truc à l'arrache la dernière fois en écartant Mbappé, sans lui dire. Et qu'il l'écarte en ce moment du mercato, c'est pour ça aussi.
Ok.
Vu notre état, un Vega Barcola, Jonathan David, je serais même prêt à signer. Donc.
ok. Là, on a 55 minutes, ça va être la dernière question du live. Vous pensez, enfin après ce qui est sorti hier avec Dembélé, vous pensez que Campos décide encore de quelque chose au Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il est sur le côté? Parce que moi, les derniers trucs que je vois... Je ne suis pas sûr que c'est lui qui décide, parce que Dembélé, on pouvait l'avoir... Hein ?
Il l'a fait Ugarte.
Oui, en début de mercato, mais je parle de maintenant, depuis la lettre de Kylian, je suis plus sûr qu'il soit aux commandes, parce que j'entends des pistes qui... Pour moi, c'est pas Campos qui est derrière ça. Dembélé, l'année dernière, quand il est arrivé, il a fait capoter le deal, c'est pas pour le prendre 50 millions l'été d'après.
Donc... Après, il le disait l'année dernière qu'il le faisait pas parce qu'il avait déjà Messi et Neymar et donc il avait des ailiers recentrés, donc c'était pas un ailier de débordement, ne rentrait pas dans cette configuration. Maintenant, t'as plus Messi.
Ouais, et toi Sam, tu penses que Campos, il gère encore ou il est sur le côté?
Non, pas du tout. Je pense pas qu'il gère, ça se voit en plus, si tu veux. Enfin, non, pour moi, les pistes qu'on a actuellement... Elle rejoint plus le sens technique d'Enrique. Et à mon avis, c'est plutôt la cible de recrutement propre qui est liée à Nasser Al-Khelaifi directement qui est en train de négocier. Parce que si tu regardes bien les pistes, elles vont toujours en Espagne. Et Enrique est arrivé depuis un moment. En général, quand il devait aller en Espagne, c'était surtout la piste Mendes. Enfin, le mec, il a l'impression que c'est son frère jumeau, quoi. Et là, en ce moment, ça ne ressemble pas du tout aux pistes que Campos, cherche habituellement. Donc, non, pour moi, il est sur le côté, là. Il attend juste l'officialisation de son éviction. Là, à mon avis, ils ne l'ont pas complètement viré parce qu'ils attendent de clore la situation avec Mbappé. Dès qu'il va être vendu ou dès que ça va être redescendu et qu'il y aura un arrangement, il va jarter. Et ce sera pas un mal parce que si tu regardes, il nous a vraiment plombé les mercato. Il faut savoir que c'est le DS qui a le plus recruté au milieu et qui a eu le plus d'argent au milieu. Et quand tu vois le résultat, c'est catastrophique.
Ouais, je pense que franchement, ça fait des années que le club il a un dégringolada. Et là, je pense que Campos il a fini de tuer l'effectif là parce qu'avec l'argent qu'il a dépensé. Après, je veux pas lui tomber dessus parce qu'il avait 100 et quelques
millions d'euros dépensés dans les milieux.
Oui, 160 millions dépensés dans les milieux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en dessous de la qualité. Tu avais la quantité à faire aussi. Tu avais 160 millions, mais tu ne pouvais pas juste rajouter un ou deux joueurs. Il te fallait en nombre, parce qu'on a vu que même tu arrivais à aller en Ligue des Champions et tu n'avais pas de milieu titulaire que tu pouvais utiliser. On a fini par utiliser Zaïre Emery en arrière-droit. On a déplacé un défenseur au milieu. Donc, tu vois que même avec les 3-4 milieux qu'il a recrutés, bah, du coup, on n'avait pas assez de milieux.
Oui, mais justement, Nix, c'est là où je suis pas d'accord. Parce que c'est justement parce qu'il a pris de la quantité, mais la quantité, elle est très très mauvaise. Quand tu prends un Renato Sanchez qui passe son temps à être blessé, Fabien Ruiz, il a passé aussi une partie du temps à être blessé. Quand tu prends aussi, par exemple, Vitinha, en fait, regarde combien a coûté, par exemple, un Casemiro qui ne se blesse jamais. C'est-à-dire que tu prends Casimiro et tu enlèves deux de nos milieux. Bah, c'est exactement ça. Sauf que ce type-là, en fait, il te fait tous tes matchs. Regarde bien Manchester, le mec, il a fait surnager le milieu qui est en train de couler depuis des années. Et parfois, il vaut mieux mettre, entre guillemets, une grosse somme sur un seul mec dont tu es sûr à 100% que trois mecs dont tu n'es pas sûr du tout. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous coûte cher actuellement. C'est les Renato Sanchez, c'est les Fabian Ruiz, c'est les Soler et tout ça. C'est ce que je dis. Les petits joueurs te coûtent beaucoup plus cher qu'un gros. Et c'est là où il a été très, très défaillant.
En fait, c'est ce que je dis depuis des années aussi, c'est on refait que le papier peint, tu vois. Donc là, tu refaisais que le papier peint aussi. Donc tu crées un loft de papier peint avec les Paredes, Wijnaldum, Draxler, etc. Et tu rachètes un autre papier peint qui est différent, mais qui n'est pas plus fonctionnel. Ça ne change pas la fonctionnalité de tes fondations qui sont en train de se détruire. Donc en gros, si tu voulais de la quantité, tu les avais. Tu mettais pas les Paredes et machin dans le loft. Ils restaient et tu achetais tout un
Exactement.
au milieu. Et l'année d'après, tu te séparais, tu refaisais le papier peint une fois avoir refait les bases. Mais c'est un peu, c'est là, on a fait quoi? On a créé un deuxième loft en fait.
C'est ça.
Ouais, personne n'est convaincu par ce qu'il a fait comme pause du coup. Donc on espère que ça va peut-être bientôt se terminer parce que ces choix-là, on va essayer de voir ce que ça donne ou garder. Mais en dehors de ça. Pour le Paris Saint-Germain, depuis le début, je dis que Campos,
Ou
il a de
garder, c'est une
l'expérience.
douille, hein.
Bon, on verra bien, mais il a l'expérience pour gérer des clubs en dessous. Mais pour le Paris Saint-Germain, pour convaincre des joueurs de venir, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Ougarté, il a pété la clause. Dembélé, si on le prend, que ça soit lui ou pas, c'est pété la clause.
Vitinha s'est pété la clause.
Ouais, donc à aucun moment il a négocié avec un gros club pour
Ah,
avoir.
il y a Skriniar qui l'a convaincu dès l'année dernière de venir. Allez.
Ouais, Skriniar, ouais. Après Hernandez, je pense que
Et
c'est
encore,
au-dessus.
quand tu vois le salaire.
Oui, ouais, bon, faut lui laisser quelque chose.
Non, mais tu sais ce qui était drôle, Basto, c'est que tu te rappelles, avec Nix, on en parlait justement par rapport à Leonardo. On pouvait apporter beaucoup de critiques, mais les gens me disaient souvent, bah, non, mais en fait, dès que tu as l'argent, c'est facile. Et en fait, ils se rendent pas compte que en fait, être directeur sportif à ce niveau-là, les mecs, ils pensent qu'ils sont sur FIFA ou sur Football Manager. Et c'est un boulot qui est hyper difficile. Leonardo, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime pas, il y a une chose que j'aime pas chez lui, c'est qu'il travaille trop tout seul. C'est-à-dire qu'il a un adjoint et quelque part, en fait, il sait pas s'entourer. Donc, du coup, c'est quelque chose qui crée énormément d'antagonisme au sein de ton club parce que c'est quelqu'un qui est méfiant. En fait, il veut pas que les choses sortent. Mais par contre, je suis désolé. Lui, comme tu disais, Basto, au moins il a fait les choses petit à petit. Il t'a ramené un Kimi par là, un Nuno Mendes par là, des latéraux qu'on cherchait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on n'a pas eu des mecs de ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire depuis que Maxwell est parti, on n'a pas eu quelqu'un à gauche qui était digne de ce nom. Et c'est dommage, en fait, c'est là où j'étais un peu déçu qu'il soit parti. Et quand j'ai vu l'arrêt de Campos, j'étais assez dubitatif. Et ce type-là, regarde juste tout ce qu'il a dépensé comme argent. C'est vrai que c'est pour ça que je pense qu'on a tous peur pour le club parce qu'il y a des moments où tu sens une hype positive et une hype négative. Et là, franchement, je pense que voilà, on est tous un peu on sent qu'il y a une hype négative et on a tous envie d'en sortir, hein.
Bah ouais, il y avait des remarques comme quoi Maldini pourrait le remplacer, ça pourrait être intéressant, on verra. Mais moi aussi, après, sur la fin de Leonardo, j'arrive à un ras-le-bol. Mais je savais qu'en général, au Paris Saint-Germain, quand on vire quelqu'un, on récupère jamais quelqu'un de mieux derrière. En fait, c'est ça le problème. C'est pas le d'avoir viré des mecs. C'est pas un problème d'avoir viré Leonardo, mais quand tu l'as remplacé par Campos, bah, du coup, tu es descendu. Donc, forcément, tu regrettes Leonardo. Même s'il y a eu un moment où il a fait pas mal de bêtises, bah, c'était aussi dans un moment où il n'y avait pas forcément. Enfin, il y avait le Covid et tout ça, c'était un peu compliqué. On va lui reprocher les cas Kurzawa et Draxler. Je suis d'accord, mais en même temps, ça nous aurait coûté combien d'acheter un arrière-gauche et un autre
Mais oui,
ailier?
c'est ça,
Je
tout
suis
à
pas
fait.
sûr qu'on avait les finances pour. C'était peut-être plus facile de les prolonger. Les joueurs, ils savaient, donc ils ont dit on prolonge, mais il va falloir que tu allonges la thune. Donc ce n'est pas des choix que j'aurais fait, mais que je comprends financièrement parlant. Mais du coup, Campos, derrière, il a eu l'argent, il a eu le budget. Et ce qu'il a fait, c'était un peu décevant, quoi. Donc, à voir. Bon, les gars, je vous laisse poser une question si vous voulez dans le chat. Et après, on clôturera là-dessus.
Tu nous fais même pas quel joueur aurait dû jouer au PSG J'ai ah, bossé toute la nuit dessus.
Ah, t'as bossé toute la nuit dessus. Vas-y.
T'as fait pour en trouver un.
Bon, ok, on va en faire celle-là. On va faire celle-là en dernière. Selon vous, quel joueur aurait dû jouer au Paris Saint-Germain? C'est un joueur qui aurait matché à 100% avec le club, mais qui n'a jamais porté la tunique parisienne. Vas-y, Basto.
Alors, je vais en dire deux. C'est-à-dire un à l'ancienne, c'est-à-dire on ne pouvait pas rêver de Ronaldo, etc., etc. Donc, il y avait un joueur que j'ai voulu pendant des années dans un poste qui était sinistré. C'est le poste derrière droit, c'est Darijo Serna, qui était à Donetsk, qui est l'international croate, que je trouvais très sous-côté et très, très bon à droite. Et je pense qu'il avait le caractère du PSG, que ça a été une espèce d'idole à ce côté. Il avait ce côté hargneux et en même temps technique. Tu sais, comme Enzo a été un peu une idole avant de partir à Marseille. Donc, il avait ce côté-là. Maintenant, à l'heure actuelle, si on regarde à l'heure actuelle, un joueur, bah, on en a parlé tout au long de ce podcast, c'est De Jong. De Jong, pour moi, c'est le PSG. Quoi. De Jong, c'est le PSG. Ça matcherait tout de suite. C'est la classe, le côté un peu arrogant hollandais aussi. Donc, il match tout de suite.
Et toi, Sam?
Alors, si on parle à l'ancienne, moi, il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, c'était Baptiste Toutain. J'aurais kiffé le voir au PSG, parce que j'adorais sa puissance, sa prestance et tout ça. Enfin, il était terrible, quoi, ce mec-là. En fait, je pense que c'est une unité dans l'équipe, en fait, il te ramenait, en fait, de l'entrain. Après, actuellement, j'aurais bien vu Haaland. Je me dis que, en fait, Haaland, il n'était pas si inaccessible que ça. Et parce que voilà, j'aime bien les joueurs puissants. J'allais dire technique. Il est quand même technique pour un mec puissant. Tu vois. Enfin, il me rappelle un petit peu en un degré moindre Zlatan. Mais voilà. Enfin, c'est pas du tout la même technicité. Mais je veux dire, voilà. J'aime bien les joueurs qui allient la puissance et la technique devant.
Bah ouais, vu que j'allais annuler ce sujet, je ne l'ai pas bossé, mais à l'ancienne, clairement Pirlo.
Ah, okay, magnifique.
Clairement Pirlo au Parc des Princes. Pirlo au Parc des Princes, mais le mec, il aurait enflammé le stade.
Mais j'aurais peur pour lui, Yannick, ça, par rapport à la Ligue.
Ah oui, par contre, il se serait fait découper. Mais bon, la Serie A, à l'époque, tu te rappelles, il jouait avec Gattuso.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait des assassins là-bas aussi.
Il y a aussi un joueur qui a été annoncé assez souvent à l'époque à Paris quand il était à Porto, c'était Deco. Deco, ça aurait marché aussi.
Ouais.
Deco, ça aurait marché. Ouais. Bah écoutez, je vais regarder juste à combien d'abonnés on est, parce que les gars, franchement, si on est à 2 abonnés, il faudra le faire tout de suite. On était la dernière fois que j'ai regardé à 7009. Ah, on a 8001. Merci beaucoup, les gars. On a fait les 8K. Merci beaucoup de vous être.
Merci, les amis.
C'est super, super sympa. On a 131 j'aime. Donc, n'hésitez pas à liker aussi. Ça nous aide énormément. Et comme j'ai dit tout à l'heure en début de live, on cherche un nouvel animateur pour la rentrée. Donc, si vous pensez que vous avez le charisme, la personnalité pour vous embrouiller avec Dryas, avec Basto ou encore avec Barry, n'hésitez pas, dans la description de la vidéo, il y a un lien pour envoyer par mail et il y a un lien si vous voulez envoyer la vidéo sur Dropbox. Il faudra faire une vidéo, vous nous dites quels sont les problèmes du Paris Saint-Germain actuels pour vous et comment vous, si vous étiez DS, vous auriez réglé. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ça si ça vous intéresse. Ok, bah ouais, Rod, tout 10K, bah on espère y arriver avant fin août. 10 000 abonnés, ce serait cool. Merci en tout cas de nous suivre de manière régulière. Là encore, vous êtes encore 300, c'est super sympa. Je vous encourage à dire au revoir à Basto parce que bon, vous n'allez pas le voir avant fin août.
Vacances.
Bonnes vacances, Basto.
Merci beaucoup.
On va le lâcher un petit peu parce qu'on a fait souffrir toute la saison. je vois
que
vous êtes
là.
Ouais, il est en fin de vie, le pauvre Miski. Ouais. Par contre, moi, il n'y a pas de vacances pour les braves, donc je serai là samedi prochain. Il faut juste que je trouve des guests pour remplacer les deux qui m'ont lâché pour aller en vacances. Parce que Dryas, il est déjà en vacances et il revient en même temps. Ah, on te demande, tu vas où, Basto?
Sur l'île de Bréa, en Bretagne, où on a une maison familiale. Mon grand-père a acheté il y a plus de 30 ans, donc j'y vais.
Mais toi, t'es fou, les gens, ils vont camper devant ta baraque.
Ouais, c'est un manoir assez sympathique. Non, c'est Bréa, c'est une île sans voiture où je suis un peu coupé de tout. Je ramène généralement pas d'ordi, très peu, le téléphone portable. Donc, ça permet de tout couper. Donc, je risque de ne pas voir les premiers matchs du PSG de la saison, puisqu'il n'y a pas de télé là-bas.
Bon, t'as dit de tout raser pour la rentrée. Et DZ94, il a dit qu'il vient avec toi en vacances.
S'il veut, hein, il ramène sa tente, il y a de la place dans le jardin. Ou dans le puits, tiens.
bah ouais, si vous voulez, on vous ramènera Berdis. Ouais, ok. Bon, bah les gars, sur ce, on vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à rester connectés sur Paris Central. On postera des vidéos dans le week-end ou début de semaine prochaine. Et n'oubliez pas que ici, c'est Paris.